Si vous prenez l'évangile de saint Marc, vous verrez que, après l'envoi en mission des 12 que nous entendions dimanche dernier, et le retour de mission que nous venons d'entendre, il y a un épisode particulier. Le texte n'est pas continu, le retour n'est pas immédiat, il y a un épisode très particulier, qui est la mort de Jean-Baptiste. La mort de Jean-Baptiste, qui a lieu loin de là. Ici, nous sommes en Galilée. Il y a 2 semaines, nous avions vu que Jésus s'était rendu dans sa patrie d'origine, à Nazareth. Dans la suite du récit, il va y avoir la multiplication des pains et il va se rendre ensuite à Bethsaïde. Bethsaïde, c'est à l'embouchure du lac de Galilée, tout à fait au nord, au nord-est du lac de Galilée. Tandis que la mort de Jean-Baptiste, elle a lieu dans le palais d'Hérode, dans un site qui s'appelle Makéronte, qui est situé dans l'actuelle Jordanie. C'est loin de là. Si vous prenez une carte de Terre Sainte, c'est à 150 km au sud. Ici, nous sommes au nord du lac de Galilée. Makéronte se situe à l'est de la mer Morte. 150 km, à l'époque, c'est loin. Et c'est donc aussi intéressant de savoir comment la nouvelle de cette mort s'est propagée, combien de temps elle a mis pour venir, de quelle façon, effectivement, elle est arrivée jusqu'à Jésus. Le site de Makéronte, de ce palais, est un site fabuleux, avec une vue prodigieuse, à la fois sur la mer Morte et sur l'étendue. C'est aussi, depuis longtemps, bien avant des siècles avant le Christ, c'était un site stratégique, un site militaire. Et c'est le père de Hérode, Hérode Antipas, c'est son père qui avait fait construire une forteresse dont on peut encore visiter les ruines aujourd'hui. Et vous savez que la mort de Jean-Baptiste a lieu au cours de l'anniversaire du roi Hérode Antipas. La fille d'Hérodiade danse, lui plaît. Il n'y a que 2 anniversaires qui soient mentionnés dans toute la Bible. Souvent on cherche, on se dit, ah, pour un anniversaire, on va chercher une page d'anniversaire. Il n'y en a que 2 et 2 mauvais épisodes. 1 dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de la Genèse, c'est un anniversaire de Pharaon, alors que Joseph est en prison. Et là, dans le Nouveau Testament, c'est l'anniversaire d'Hérode. Si on compare avec les autres évangiles, en particulier l'évangile de saint Matthieu, quand Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste, c'est à ce moment-là qu'il s'en va. Ici, c'est au retour de mission des 12, qui part en barque et qu'on le suit. Non, dans l'évangile de saint Matthieu, c'est à ce moment-là qu'il s'en va et qu'effectivement qu'il retire en barque et on retrouve à peu près la suite, la présence des foules, la compassion de Jésus. Ici, de façon très claire, lorsqu'il reçoit ses disciples, il prononce cette phrase que nous pouvons tous entendre au cœur de l'été, « Allez, venez à l'écart, vous reposez un peu. » Est-ce qu'ils sont au courant de la mort de Jean-Baptiste quand ils reviennent ? Est-ce que Jésus leur apprend la nouvelle ? De quelle façon, s'il leur en parle-t-il ? Est-ce qu'ils saisissent, ils voient effectivement la douleur, la peine profonde de Jésus pour son cousin, pour Jean ? Est-ce que, de façon plus profonde, le martyre de Jean-Baptiste, c'est-à-dire la mort du prophète, la mort de Jean-Baptiste qui annonce, qui est un tournant dans l'évangile, qui annonce sa propre mort, est-ce que ça fait partie de l'enseignement de Jésus à ses disciples et de ce long enseignement qu'il donne aux foules? On peut presque dire avec certitude, oui, bien sûr. Jésus est très clair sur la réalité du mal. Et tout l'évangile est très clair sur la puissance du mal dans le monde. Et les disciples que Jésus avait appelés auprès d'eux, s'il fallait le dire de façon familière, ce n'étaient pas des gamins. Et encore, quand on dit que ce n'étaient pas des gamins, les gamins de l'époque ne voyaient pas le monde par écran interposé. Ils voyaient régulièrement des cadavres. Ils voyaient la mort qui était présente. Ils voyaient des souffrances qu'on n'était pas capable d'apaiser. Ils voyaient des rites forts, justement, d'accompagnement des malades et puis de veille des morts. Il voyait tout cela et les disciples étaient des hommes mûrs, des hommes éprouvés. Il suffit d'ailleurs de lire l'Évangile en suivant les disciples pour s'en rendre compte. Et c'était des hommes religieux. Et les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble parce qu'il faut avoir ou peut-être traversé des épreuves, voire même avoir été par moments désespéré, en tout cas avoir le sens du salut pour avoir simplement cette notion profonde de Dieu. L'expérience de la vie, vous savez, l'expérience de la vie sur laquelle aujourd'hui on ne fait plus grand cas, dont on estime qu'on peut confier à des responsabilités à des personnes, quel que soit leur âge. L'expérience de la vie, elle n'est pas faite seulement de découvertes, d'émerveillements, de lectures, de visites, de voyages. L'expérience de la vie, elle est faite aussi de dangers, de drames, d'erreurs, de souffrances et de toutes sortes d'épreuves. À cette époque, comme aujourd'hui dans la plupart des pays du monde, on n'était pas protégé, on n'était pas épargné. Et chacun avait vraiment conscience de sa fragilité. Le repos auquel Jésus appelle ses disciples, ce repos, il n'a rien à voir avec de l'insouciance. Ce n'est pas de l'insouciance, ce repos. D'ailleurs, il s'interrompt à peine il a commencé, parce que les foules les rejoignent. Et que l'amour, la compassion ne prend pas de vacances. Il y a un très beau psaume qui dit « Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. » Dans les années 70, il y avait eu plusieurs évêques français de France qui étaient conscients d'être non seulement les successeurs des apôtres, mais les héritiers des apôtres à qui Jésus avait appris à prier. Et ces évêques français avaient appelé de leur vœu et même avaient demandé que on rallume dans nos villes des foyers de prière, qu'il y ait dans nos grands centres urbains des foyers de prière. Il nous faut, disait, c'était l'archevêque de Paris, le cardinal Marty, dans les années 70, il disait, il faut inventer une contemplation accordée au rythme citadin, au rythme des villes. Il venait de la campagne. Il avait encore gardé son accent rocailleux. Il allait avoir, il avait près de 70 ans, et il proposait une vision à 30 ans. Voilà ce que c'est qu'un pasteur. Il proposait pour l'Église une vision à 30 ans. Pour l'an 2000, dans les années 70, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, en 2024, au moins une vision à 30 ans, pour 2050. Il disait, il demandait, il disait qu'à Paris, il faut des communautés d'hommes et de femmes qui rayonnent la prière dans la pauvreté de leur vie. Je cite ce qu'il disait dans une interview dans La Vie catholique de l'époque, de septembre 73, « Il faut mettre à la disposition du peuple de Dieu des éducateurs de la prière. » Et il disait, ce n'est pas l'apanage des prêtres, des croyants qui soient des pratiquants de la parole de Dieu, des éducateurs de la prière et des lieux de prière qui soient visibles, qui soient accessibles, pas seulement pour rendre accessible la messe du dimanche. Et il partait du constat que le rythme de notre vie, il disait à l'époque, de notre vie de fourmilière, de notre vie d'agitation, peut étouffer tout appétit spirituel ou renvoyer sans cesse à plus tard. Et avec cette phrase qui résonne comme l'Évangile, on a faim mais on ne prend pas le temps de manger. La dépersonnalisation risque de nous retirer jusqu'au goût d'être nous-mêmes et d'être nous-mêmes devant Dieu. Quelques années plus tard, à la fin des années 70, un de ces prêtres, un prêtre de Paris qui était devenu carme et qui ensuite finira évêque, Guy Gaucher, publie un petit livre « Prier dans les villes », qui est en cours de réimpression, qui a eu une grande diffusion, « Prier dans les villes », où il recueille différents témoignages, justement sur la prière dans nos villes, et qui donnait la clé de cette vie adaptée, de cette prière adaptée à notre vie d'aujourd'hui, il disait la clé, c'est l'intensité. L'intensité. Il y avait une sœur contemplative qui vivait en HLM, qui témoignait en disant « Mon lieu, mon terrain d'apostolat, ma part d'héritage, c'est pas de toucher le plus grand nombre de gens, c'est pas d'aller sur les places et sur les carrefours, voire aux sorties de métro, c'est pas d'aller à des réunions. Mon lieu, c'est l'intensité. » Se souvenant ainsi de ce que disait Saint Jean de la Croix, le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies. Le plus petit mouvement de pur amour, l'intensité. Et si c'était cela, le vrai repos? Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Avec lui, je reste inébranlable. Vous savez, quand on peut être soi-même, c'est ça les vraies vacances, c'est ça le vrai repos. Qu'on prend, enfin, prendre du temps pour Dieu, un temps d'intensité. Quand on peut prendre le temps de manger, de goûter, de méditer la parole de vérité. Je vous laisse avec ces quelques lignes de Madeleine Elbrel. Car le monde n'est pas toujours un obstacle à prier pour le monde. Si certains doivent le quitter pour le trouver et le soulever vers le ciel, d'autres doivent s'enfoncer en lui pour se hisser, mais avec lui, vers le ciel.